Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
L'histoire se passe dans une petite ville de la campagne anglaise vers 1915. C'est Vinciane Després qui la raconte dans son livre « Habiter en oiseau ». Henry Elliot Howard est un notable. Il a repris l'usine d'acier de son père et il est aussi juge de paix. Mais ce qu'il aime vraiment dans la vie, depuis qu'il est tout petit, c'est observer la nature. Il se passionne particulièrement pour les oiseaux. Tous les matins, avant de partir au bureau, il s'installe dans le parc de sa maison et il passe plusieurs heures à observer les volatiles qui vivent dans les parages. Un jour, il repère un bruant des roseaux. Le bruant, c'est un petit oiseau assez commun avec des plumes marron et une tête noire. Une personne ordinaire est incapable de faire la différence entre deux bruants des roseaux, mais Henry Howard, si. Je ne sais pas comment, il en identifie donc un, toujours le même, et il passe des heures et des heures, à l'aube, à scruter sa petite routine, son chant, ses mouvements, ses attitudes. Et c'est comme ça qu'il remarque que ce bruant des roseaux s'installe toujours sur le même arbre, un aulne, près d'un marais. N'importe quel arbre pourrait faire l'affaire, mais le bruant en choisit un seul, comme une sorte de quartier général. En fait, ce qu'Henry Elliot Howard découvre, et qu'il va décrire dans un livre qui ouvrira tout un champ de recherche aux ornithologues du XXe siècle, c'est que les oiseaux ont un territoire, et qu'ils en dessinent les frontières invisibles avec leur chant, la trajectoire de leur vol, et toute une série de comportements qu'aucun scientifique n'avait jamais vraiment réussi à comprendre jusque-là. Il faut dire qu'à l'époque, vers 1920 donc, Vinciane Després le rappelle dans son livre mais on a du mal à le croire, il y avait encore énormément d'ornithologues qui, pour étudier les oiseaux, sans doute parce qu'ils trouvaient ça plus pratique pour les observer de près, commençaient par les tuer. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ce sont d'autres histoires de gens comme Henry Elliot Howard qui savent voir pour de vrai, guetter la vie, s'approcher autrement, des amateurs passionnés, des regardeurs, à l'affût, racontés par Élise Andrieux.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Là, on entend pas mal d'oiseaux, essentiellement du passereau. On a des mésanges, on a... Et puis bon, il y a les criquets. Il y a un petit vent. Donc on va essayer d'avancer et puis d'aller voir pister quelques animaux. Alors là, on est très exactement en Beaufortin, en Savoie, dans les Alpes. Et c'est vrai que, en tant que photographe animalier, évidemment, on est toujours un peu chargé comme des ânes. Donc on se balade souvent avec 20 kg ou 25 kg sur le dos. Aujourd'hui j'ai mon appareil photo, mon sac à dos, que j'appelle Denis d'ailleurs. C'est mon fidèle ami. C'est lui qui me permet de porter plein de choses. Des caméras automatiques pour le pistage, la trousse de secours quand on part en montagne, de l'eau, de quoi manger un petit peu, le filet de camouflage. Des fois on peut créer l'affût sur place, tu vois, avec toutes ces branches mortes là. Tu peux faire comme un petit tipi au bord de l'arbre avec la petite sortie pour toi voir et puis passer l'objectif. Mais sinon, il y a aussi des affûts, un peu comme des tentes. Tiens, regarde là, tu vois. Alors, on a de la chance parce que comme il a beaucoup plu, ça a charrié un peu des matériaux. Et du coup, pour lire les empreintes, bah, c'est juste parfait. Et là, tu vois, on vient de tomber. Il y a le chamois, juste là. Dans ce sens, qui est en train de remonter la pente. Et dans l'autre sens, tu vois, ça fait comme deux doigts, là. On voit que l'avant. C'est assez petit, donc moi, je partirais plutôt sur un fan. Donc, on va se poster par là. C'est parfait. Nous, on ne s'est pas douché depuis quelques jours. Donc, on les embêtera pas. On va se rouler un peu dans la mousse, se mettre sous le filet et puis voir ce qui se passe. Le moment qu'on attend souvent quand on est à l'affût, c'est le moment de la rencontre. Ce moment où l'animal que tu as pisté tout ce temps finit par apparaître là où tu rêvais qu'il apparaisse. Parce que quand tu rentres en affût, tu pars pour des heures et des heures de rêve en fait, à attendre ce petit moment et t'attends ça, et t'attends ça. Alors moi c'est Sandra Bérénice. J'ai vécu une partie de mon enfance en Afrique, alors pas énormément de temps, mais suffisamment pour vraiment bien me marquer. Et c'était en Côte d'Ivoire, entre les bords de mer et puis la brousse. Et c'est vrai que mon père était chasseur, mais il aimait aussi tout simplement la faune, donc on passait du temps à pister cette faune. Et c'est ce qui m'a amené tout doucement à me faire toute petite et avoir cette envie de faire des affûts, de me cacher, de pister la faune sauvage ici en France. Mais j'ai quitté, moi, l'Afrique, j'ai vécu que jusqu'à mes 6 ans. Hop, une petite mésange. Elle est magnifique. Regarde, juste là. Et il y a un moment qui m'a vraiment, vraiment marqué en Afrique avec mon père. Donc lui, il est parti en chasse et moi, je le suivais. Je me rappelle qu'on a marché pieds nus, ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, même toute petite, si j'étais pas lourde, je m'enfonçais énormément dans la vase entre les mangroves et tout ça. Il y avait des crabes avec des pinces rouges énormes tout autour de nous. Et on était dans cette ambiance assez sombre et pourtant vraiment merveilleuse. Hop, il y a un petit papillon qui vient de passer devant nous aussi, qui est magnifique. Je suis désolée, dès qu'il y a quelque chose, je me distrais. Et dans cette ambiance, dans ce silence... Et d'un coup, d'un seul, il m'arrête. Il m'arrête, il me dit stop, regarde. Il me montre du bout du doigt un énorme oiseau à la cime d'un arbre. Il me dit, c'est un aigle pêcheur. Moi, je suis émerveillée. Et je vois qu'il commence à épauler le fusil tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Il me fait signe, chut. Et là, il essaye de tirer. Et il le rate. Et j'en ai des frissons quand je t'en parle parce que ça avait pas de sens pour moi, en fait. Surtout qu'il m'a aussi dit c'est une espèce qu'on n'a pas le droit de tirer. Donc pour moi, c'était un mélange d'incompréhension, d'injustice. Il y avait plein de choses mêlées parce que ce moment-là était juste magique, unique pour moi. C'était magnifique d'avoir pu observer cet oiseau et de me dire que finalement, il m'a amené là pour ça. Ça a tout gâché. Ça a tout gâché et du coup, en fait, ça m'a tellement marqué que je suis totalement l'opposé maintenant. Que moi, je vais peut-être certes chasser les images parce que finalement, j'ai le même raisonnement. Je pisse les animaux de la même manière. Sauf que moi, l'objectif est du coup totalement différent maintenant. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps parce que cette passion, elle est née vers les 13 ans et bien au-delà si on parle que de la nature. Et mon matériel... Pour l'animalier, je crois que j'ai réussi à m'acheter mon tout premier objectif. Je sais pas, peut-être que j'avais 20 ans ou 21 ans. Ça fait quand même beaucoup de temps. Et ce temps-là, je l'ai passé, moi, à continuer à affûter et à observer la faune et à aimer tout ça. La photographie animalière, c'était une passion qui est devenue mon métier. J'ai une fourmi dans le pantalon. Attends, je vais la faire sortir. Elle va se fâcher sinon. C'est bon. l'a pas du tout entendu arriver. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas du tout entendu arriver. Et j'ai fait deux petites photos. Pas plus parce que après le bruit du déclencheur, ça peut un peu les interpeller et les déranger. Et en plus, pile au moment où il commençait légèrement à pleuvoir, puis ça s'est arrêté net au moment où il est parti, t'as vu ? Alors voilà, c'est ce genre de moment que j'apprécie quand je suis en montagne. Dans ma vie, vu que ça me passionne plus qu'autre chose, j'ai fait beaucoup d'affûts, j'ai beaucoup pisté les animaux. Il y en a certains qui m'ont plus bouleversé que d'autres, il y a des instants qui m'ont plus marqué. Tu vois, là où on est, comme je t'ai montré tout à l'heure, la montagne en face, là, c'est celle où je vais observer les bouquetins et depuis quelques années, un bouquetin en particulier. C'était à l'automne, avec un ami. Pourtant, d'habitude, je suis seule. Et je dis à cet ami, on va partir. Et donc, on a commencé à monter. On a commencé à monter, à monter, à monter, cette montagne à monter. On était fatigués. En plus, il y avait un peu de neige par-ci, par-là. Et on arrive pas très loin. Donc là, on s'arrête. Donc, on voit quelques femelles en haut à droite, quelques mâles un peu plus sur la gauche. Là, la lumière change totalement d'un coup. Il y avait quelques nuages et une ambiance un peu marron. Il y avait un coucher de soleil, mais pas orange. Et d'un coup, en bas, sur la gauche, on voit un mâle. Mais en fait, quand le bout de ses cornes a commencé à sortir de la pente et qu'il a commencé à monter, on est resté bouche bée parce que moi, j'avais juste jamais vu un animal aussi imposant, aussi énorme et des cornes aussi immenses. Et il remonte le long de la crête. Et puis, nous, on est là à le regarder. D'ailleurs, je débutais la photo, ça fait quand même pas mal d'années, je crois que ça a au moins 4 ans. Donc le réflexe d'une jeune photographe, c'est de chercher à zoomer pour avoir le gros plan un peu. Et effectivement, j'ai des super gros plans où limite ses cornes n'arrivent pas à rentrer dans le cadre. Et puis il s'arrête. Finalement, il s'arrête et il se retourne. Et il se met à, si je peux décrire la scène, pour moi, contempler le paysage en fait. Parce qu'il y avait rien à regarder. Rien d'autre que ce paysage magnifique. Et il se dresse là, imposant, majestueux, à regarder tout ce qu'il y a autour de lui, quoi. C'est son royaume. C'est son royaume, quoi. Et moi, toujours dans ma jeunesse, je continue à ce moment-là. Je me dis, waouh, je fais des très gros plans. Des fois, je dézoome un petit peu, mais je continue à faire des gros plans. À un moment donné, il se tourne. Il nous regarde. Puis il retourne la tête et il regarde le paysage. Là, le soleil est vraiment rasant, avec des lueurs uniques, en fait. Les lumières changent tout le temps, mais c'est difficile de retrouver les mêmes ambiances. Et là, celle-ci, jamais encore, jusqu'à ce jour, je l'ai retrouvée, quoi. Et il regarde ce paysage. Il se retourne. Moi, je continue avec mes compagnons. Il se retourne. Il me regarde et il re-retourne sa tête et il regarde ce paysage. Et là, quand il se re-retourne, en fait, au moment où il m'a regardé, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Comme s'il m'avait dit, comme si j'avais entendu dans ma tête une voix qui me dit « Mais ouvre les yeux et regarde. C'est pas ça. » Et là, je regarde la scène dans son ensemble, en fait, comme lui le faisait. Et je me dis « Mais c'est exactement ça qu'il faut que tu retransmettes. C'est cette scène dans son ensemble. » Du coup, je dézoome, je prends ma photo, j'en fais 2-3. Et après, je reste juste là, béate, un peu bête aussi, de me dire, mais c'est comme si lui venait de t'apprendre la vie, en fait. Il vient de te montrer le chemin, la voie, de te dire, mais c'est ça que tu dois regarder. C'est tout ça. Mais regarde, c'est tout ça. En tout cas, enfin, cette rencontre avec ce bouquetin, c'est comme avoir rencontré un vieux sage, quoi. C'est par là. y a la pluie qui guette, qui risque de revenir. Donc on va aller se mettre à l'abri. Donc on va rentrer. Voilà. T'as déjà essayé d'enregistrer les fourmis ?
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Elsa Pharaon. Je suis directrice de casting spécialisée en casting sauvage. Ça consiste en fait à être à l'affût de personnes, de personnalités fortes et authentiques pour jouer dans des films.
Là, lui quand même, il force le regard avec sa mini moto. Lui, il est incroyable. Ouais.
Alors, le début, à 10 ans, j'ai eu un accident de vélo et je me suis retrouvée immobilisée à l'hôpital et j'ai découvert en fait le cinéma de minuit. Et le premier film que j'ai vu, c'était un film de Marco Ferreri, je sais plus le titre, avec Histoire de femme, ou enfin c'était avec Anna Skigula. Et voilà, j'ai eu un choc. Et en parallèle, ma mère, en fait, était directrice artistique pour les catalogues Redoute 3 Suisse. Et une partie de son travail, c'était de sélectionner des mannequins. Et il y avait à la maison des books de mannequins. Et c'était la grande période des mannequins des années 80, des Naomi Campbell, il y avait même Robin Wright, hein, et qui faisait la couverture du 3 Suisse Redoute. Les visages me fascinaient. Les portraits me fascinaient. Et donc, bah voilà, je m'amusais à faire mes propres sélections dans ces books, à découper des pages de magazines, à accrocher des photos de mannequins et de comédiennes au mur. Et après, j'ai fait les beaux-arts. Mes premiers tableaux, en fait, je reprenais des photos de mannequins ou de comédiennes que je peignais. Donc, c'était pour pouvoir les regarder plus longtemps, en fait. Mais je peux pas expliquer pourquoi. Et au bout de 2 ans, je connaissais un maquilleur coiffeur, qui était un ami de ma mère, qui savait que j'aimais beaucoup le cinéma, et qui m'a dit qu'il était sur un tournage à Nice, un tournage de Nicole Garcia. Et je l'ai supplié de me prendre comme stagiaire maquillage-coiffure. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai quitté les Beaux-Arts, je suis partie pour Nice, pour devenir stagiaire maquillage-coiffure. Alors j'étais très mauvaise en maquillage et en coiffure. Donc très vite, comme en fait j'aidais la régie, la mise en scène, ben, ils m'ont embauché en régie, puis en mise en scène. Et sur ce film, il y avait plusieurs membres de l'équipe d'Arnaud Desplechin. Et ils m'ont parlé du tournage de Comment je me suis disputée, qui allait se faire à Lille, la ville d'où je venais. Et ils m'ont dit, ben, il va peut-être y avoir des décors à chercher ou des enfants à chercher. J'ai cherché un peu les deux, mais c'est avéré que en fait, j'étais meilleure dans la recherche d'enfants. Et c'est là que j'ai commencé le casting, en fait. Donc là, on est, c'est bientôt la fin d'après-midi. Il fait assez beau, ça c'est chouette. Hein. La lumière est douce. J'ai très peu exploré, en fait, les alentours de ma maison, là où j'habite. Donc j'habite à Romainville. Et il y a une cité juste à côté, quoi, qui est à 2 minutes. Et on va la traverser, on va voir ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'il n'y aura personne parce qu'on est en pleine journée. Je sais qu'il y a toujours comme ça des groupes de jeunes adultes qui se réunissent au pied des immeubles. Et je regarde. Hein. Là, il y a ce garçon avec son t-shirt bleu qui parle avec ses mains. Et le fait d'être aux aguets dans la rue, toujours à regarder les visages, les gens marcher, un sourire. Aux aguets par rapport à des moments de grâce. Il y a un garçon très beau qui nous regarde. Peut-être pas forcément ce qu'on cherche. En fait, le travail commence à la lecture d'un scénario où sont décrits les personnages du film. Et ensuite, le travail consiste à me balader, aller à des endroits précis où pourraient se trouver des personnes qui ressemblent plus au personnage. À un moment donné, il va y avoir une rencontre avec une personne dans la réalité qui va faire voler en éclats le personnage. C'est comme si tout le scénario va se mettre à se dérouler devant nos yeux. Et ça, c'est vraiment un moment qui est complètement fabuleux, parce qu'en fait, c'est au-delà de ce qu'on s'était imaginé. Et il y a cette jeune femme avec un tatouage sur le bras. Quelque chose d'assez... qui pouvait interpeller chez elle, avec ses cheveux blonds, sa coiffure bien lisse, son visage lisse et puis ce tatouage. Alors j'ai un souvenir d'avoir croisé la grâce. Le film s'appelait « Tout est pardonné » de Myeon-sun Love. Donc en fait, je venais de commencer le casting. La réalisatrice cherchait une jeune fille, donc je faisais du travail de bureau. Et puis vers 16h, je me suis dit « mais je suis vraiment juste à côté de toutes les écoles, je vais aller me balader ». Et en fait, il y a un endroit qui est une espèce de carrefour entre tous les lycées du quartier. Donc je me suis positionnée, et c'était assez formidable parce que j'ai été plongée pendant une demi-heure par des mouvements comme des oiseaux en fait qui me traversaient. Et parmi tous ces visages, il y a eu un visage d'une luminosité incroyable, une peau de porcelaine comme éclairée de l'intérieur. Enfin, elle était comme une lanterne. Elle était comme phosphorescente. Il y a tellement de monde, en fait, que j'ai l'impression que le regard, à un moment donné, voit flou, en fait. On ne peut pas voir précisément chaque personne. D'un coup, c'est comme si elle était au ralenti et elle était nette par rapport aux autres. Elle s'est distinguée. J'ai abordé cette jeune fille et elle a rougi. Et son rougissement était fabuleux. Tellement gracieux. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis vraiment très timide. Et pour moi, faire du casting dans la rue, je suis vraiment obligée de prendre sur moi. Et je ne suis pas capable d'aborder pour aborder. Donc en fait, quand j'aborde quelqu'un, c'est que vraiment, ça me dépasse. Il y a mon instinct qui m'y oblige. Parce que sinon, je n'ose pas, je me dis bon, tant pis. Et en fait, Constance, elle m'a fait oublier ma timidité. C'est comme si elle m'avait mise dans une autre dimension. Et elle a fait le film. Des fois, je m'imagine que je suis comme un flic à la recherche d'un suspect qui va quadriller la ville. Il va dire, bon, bah là, ce matin, on va là, demain, on va là. On recueille des informations comme un enquêteur. Et puis, d'un coup, en interrogeant, il y a quelqu'un qui va dire un truc. On se dit, tiens... On va suivre cette piste, et puis cette piste nous envoie sur une autre, et puis d'un coup, c'est la rencontre. Il y a vraiment une différence entre ce travail très méthodique et l'attente de ce moment magique. C'est-à-dire, quand je suis en rendez-vous casting, je peux être, par exemple, de dos sur mon ordinateur en train de taper des choses. Il va y avoir une candidate ou un candidat qui va rentrer, et en fait, je vais me retourner. C'est qu'il y a une personne qui rentre et... Bah, elle est vivante. Elle rentre et elle est vivante. Et je pense que c'est ça la grâce, en fait. C'est... Il y a des gens qui sont plus vivants que d'autres. Là, je vois... Il y a un groupe de garçons. Bonjour. En fait, je suis directrice de casting. Voilà. Je cherche en fait des jeunes. C'est un film qui va se tourner au mois d'octobre. C'est pour des petits rôles, si ça vous intéresse.
Je vais dans un film, mais vigile. Vigile.
Ouais, si je peux détrôner Omar Sy, ouais.
Bah pourquoi pas, tu vois.
On va ensemble. Bah ouais, voilà, c'est chaud. Bah ouais.
Vas-y,
ouais, c'est bon, on va faire.
Mais pas les rôles de voyous, de cité, de. Non merci, ça y est. Bah, j'ai pas de photo particulière.
Mais moi je peux juste en faire une de toi comme ça, hein. C'est plus pour mes fichiers. Regarde-moi.
On fait conneries comme ça.
Ouais, regarde-moi. Super, j'en fais une de plus loin. Et est-ce que je peux en faire une sans tes lunettes? Comme ça, je vois bien tes yeux. Attends, peut-être mets-toi plus là, j'ai l'impression que tu es en contre-jour. Mets-toi là. Ah voilà, là c'est mieux, je te vois vraiment bien. Là, c'est parfait. Super.
Ah, trop bien, regarde.
Tête
c'est une bonne tête. Et attends, ce que je vais faire, je vais quand même juste prendre ton téléphone pour mettre derrière. Comme ça. Alors. 07. Bon, ben voilà. Très belle rencontre. Il est incroyable. Très fin en plus. Ah ouais, avec ses dents écartées. Puis... Ah non, incroyable. Incroyable. Ah ouais. Une élégance.
Emmène-moi au firmament. Au-delà de la cordillère des Andes.
Regard à l'affût, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Clémence Gross, mixé par Philippe Mercher. L'attachée de production, c'est Mélissa Foust. Merci à Sandra Bérénice et à Elsa.
Notre vitesse se réduit.